Thank you, everyone.
Pour commencer, j'aimerais vous rappeler d'obtenir des écouteurs parce que nous aurons un panéliste qui s'exprimera en français. Merci d'être venu. J'aimerais introduire Nick Wenard qui sera notre modérateur pour le forum sur l'abus du DNS. Nous avons des questions pour les panélistes et si vous avez des questions, veuillez décliner votre nom pour les interprètes et les scribes. Merci. Merci. Bienvenue. Comme je l'ai bien compris, ce qu'on pensait ne serait qu'avoir uniquement les noms pour se rappeler et faire notre travail. Internet devient de plus en plus compliqué parce que d'autres personnes trouvent des manières de ne pas l'utiliser de la bonne manière. Ainsi, cela crée des différents abus, défis à relever et il est important pour nous de prendre un peu de temps et de réfléchir surtout sur un environnement en plein développement comme nous avons. Il y a des observations particulières ou des défis que nous découvrons qui pourraient donner des exemples d'abus au sujet des abus du système DNS pour nous aider à lancer notre discussion sur le DNS. Nous avons des panélistes très différents et il y a deux sessions. La première qui va tenter de passer en revue les dernières manifestations de la lutte contre les abus DNS et ensuite nous allons plus tard, avoir une session sur les problèmes liés à l'évolution des noms de domaine, des pannes, des attaques. Donc, nous allons donner aux panélistes la possibilité de faire leurs commentaires et ensuite, ce sera à nous autres de contribuer et parfois demander aux panélistes de répondre pour que ce soit un petit peu plus interactif et intéressant. Donc, pour la première session, qui est le dernier déroulement dans la lutte contre les abus DNS, nous avons un panel avec Lanré Ajayi, Frédéric Gaudreau, Pierre Danginou, je suis sûre qu'il est occupé, mais il est en chemin. On va demander à Lanré Ajayi de commencer. Et si vous voulez des détails additionnels en termes de biographie et d'informations additionnelles sur leur antécédent professionnel, ceci figure sur leur site web. Donc, Larry, vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Mon commentaire sera sous forme d'une étude de cas ici en Nigeria. Je vais montrer quelques défis à relever au Nigeria et comment nous essayons de les gérer. Et je vais vous montrer au moins une liste affichée sur l'écran sur les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas propre à au Nigeria, mais ce sont des défis qui existent sur l'Internet. Le phishing, les pourriels, les emails de pièges, la vol d'identité, refus de service, accès non autorisé, cyberterrorisme, virus et programmes malveillants. Il existe la perception que le Nigeria est le centre de cybercrime du monde. Regardez bien que j'ai dit la perception du monde, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suppose que cette perception existe à travers le monde. Je dois admettre que nous sommes coupables, certains d'entre eux, mais pas de pas de tous les crimes. Par exemple, les spams, les pourriels. C'est vrai, le Nigeria envoie des pourriels et c'est vrai, nous sommes coupables, nous envoyons des emails de pièges et d'hameçonnage, des activités d'hameçonnage et de vol d'identité. Nous voulons, c'est vrai, il y a des vols d'identité, mais je n'accepterai pas et nous ne sommes pas coupables pour les attaques de refus de service, nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas du hacking, même si vous le faites. Nous n'avons pas la technologie pour le faire, le piratage. Et nous ne faisons pas de cyberterrorisme. Donc, nous ne sommes pas coupables. Et nous n'envoyons pas de virus. Nous ne savons parce que on ne sait pas comment écrire les codes. Donc, j'aimerais de dire que nous sommes coupables des quatre premiers chefs d'accusation, mais pas des quatre derniers. Nous sommes pénalisés sérieusement. Vous avez arrêté de faire des affaires avec nous sur l'Internet. Ça, c'est très dur comme pénalité parfois. Vous avez bloqué les Nigériens, les IPS nigériens, et nous, on ne peut pas accéder à certains de vos sites. Et on ne va pas accepter les cartes de crédit dans certains cas. Et les sujets de discussion, c'est ce qu'on appelle les escroqueries, ce que nous appelons 419 et que nous trouvons très embarrassant. Donc, voici quelques conséquences de ces pénalités sur l'Internet. Parfois, quelques années auparavant, une personne âgée, citoyen de la communauté européenne, qui est arrivée au Nigeria, il a perdu toutes ses économies. Il est parti à l'ambassadeur pour se plaindre. Ils ont été ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas trouvé les escrocs. Il a vu l'ambassadeur nigérien et il l'a tué dans son pays. C'était très grave. Donc, comme pays, on a des options. La première option est de déclarer la guerre contre ce pays pour avoir tué notre ambassadeur. L'autre option est de permettre à ce pays de permettre à la justice de faire son cours et pour nous de nous attacher à résoudre le problème. Ce pays s'est fait justice et nous devons lutter contre le cybercrime dans notre pays. Donc le président, pour cela, a mis sur pied un groupe de travail anti-crime cybernétique et j'ai eu la chance d'y participer. Le groupe travaillait très dur et nous avons trouvé plusieurs solutions de tentative pour essayer de réduire cette menace. La première, c'est que nous avons analysé du point de vue de l'angle technique, juridique, politique, et du point de vue juridique, on s'est rendu compte que notre loi, notre législation est très faible sur les cybercrimes. Par exemple, s'il y a il n'y a pas de loi sur les pourriels. S'il n'y a aucune loi, si en cas d'email d'escroquerie, il n'y a aucune loi qui dise que vous avez commis un crime. Donc, nous avons passé des projets de loi et pour résoudre certaines de ces questions. Et le projet a été formulé par le groupe de travail des cybercrimes et a bien résolu le problème de pourriels. Et il est devenu maintenant législation. Le Parlement l'aura approuvé, ce sera aux forces de l'ordre d'intervenir lors des transactions de télécommunications. La preuve électronique n'était pas encore là. Et ça n'existe toujours pas. Jusqu'à ce que la loi soit passée, ça demeure un défi. quelques personnes ont été arrêtées, mais n'ont pas pu être inculpées en raison du fait que la seule preuve disponible pour cybercrime était une preuve électronique. Donc, on pense que nous pensons que les opérateurs qui fournissaient les services, nous les encourageons et nous demandons qu'il soit obligatoire pour eux, qu'ils trouvent un parcours de comportement qui sera obligatoire pour tous les membres. Et ensuite, les gens qui n'appliquent pas les implications ne vont pas accepter cette implication pour l'économie nationale. Ça prend deux, il prend deux pour faire du tango. Il faut un criminel pour et un complice à l'extérieur également pour le faire. Mais ce n'est pas bon pour l'image du pays, pour l'économie et cela. Le public général, en général, doit être averti et on augmente des campagnes de sensibilisation et d'information du public. Surtout, comme cela dit, la discussion se rapporte au nom de domaine. Nous avons remarqué que la plupart des crimes, la plupart des cybercrimes listés que j'ai mentionnés auparavant ne peuvent être fait sans avoir utilisé un nom de domaine sous une forme ou une autre. Dans la plupart des cas, ces criminels clonent les sites web du gouvernement nigérien. Et c'est facile à faire parce qu'au Nigeria, la plupart des ministres, départements et agences au Nigeria, ils ont un nom de domaine de première priorité, de premier niveau. Donc, c'était très facile, très pratique pour le criminel de prendre à .com et que cela soit très similaire aux sites web des agences du gouvernement et le cloner pour en faire, pour commettre n'importe toutes sortes de crimes. Donc, on félicite le gouvernement pour l'utilisation de stuff.ng qui soit obligatoire. Et je pense que c'est que cela a été fait maintenant. Maintenant, veuillez faire des affaires avec nous. Arrêtez de bloquer nos IP. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. En réalité, je me souviens que le nom en lui-même était une action contre le vol d'identité. Donc, c'est une histoire qui existe depuis longtemps. Oui, tout à fait. Bien, maintenant, je voudrais avoir un petit peu de perspective. Je voudrais inviter Pierre Dangenot. Merci beaucoup. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse. Eh bien, du Bénin, je vais présenter la situation au Bénin. Et mon collègue a bien dit, nous sommes en train d'améliorer les choses. Nous essayons de voir ce qui se passe au Nigeria et voir si cela peut avoir un impact sur ce qui se passe au Bénin, au Togo, dans le reste des pays d'Afrique. Le cas du Bénin va être un rapport assez bref concernant ce qui a été fait en Afrique pour combattre ce phénomène. Nous voyons vraiment qu'en Afrique, en tout cas, les décideurs sont très intéressés par ces questions. Ils ont remarqué que l'Internet devient de plus en plus grand et l'abus DNS est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus important et donc on consacre des ressources à cela pour que la mission appropriée soit conduite, ce qui est une bonne chose. Maintenant, nous aurions aimé avoir des statistiques à vous présenter, un système de reconnaissance de ce qui se fait dans le secteur des CCTLD en Afrique, mais ces chiffres ne sont pas disponibles. Donc, comme Larry l'a dit, ce sont des problèmes. Nous savons qu'il y a certains types d'attaques qui ont lieu à différents endroits et que parfois, c'est dû à un problème d'infrastructure que nous avons dans différents endroits. Parfois, l'incapacité à utiliser convenablement les serveurs que nous avons. Et puis, le problème est le DNS, le DNSSEC. Je pense que nous avons vraiment besoin de considération de la part des professionnels d'Afrique et des responsables politiques aussi pour améliorer les choses. Maintenant, une fois que je vous ai présenté cet environnement, ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi à faire, je dirais qu'il y a différentes approches ici. Nous avons l'aspect professionnel et qui ont créé des réseaux avec des formations que nous réalisons. Nous sommes invités à travers l'AFNOG à faire ce type d'atelier. Et c'est... cela nous permet de faire un développement de compétences. Il y a de plus en plus de gens qui essayent d'avoir un type de diplôme pour pouvoir s'assurer qu'ils pourront répondre aux problèmes de stratégie, aux problèmes de management, aux différents problèmes qui peuvent surgir dans notre pays. L'Africa CERT, le CERT pour Africa, est une initiative qui vise à former des compétences dans les différents pays parce que vous savez que l'Africa est formée de 54 pays qui ont tous des situations tout à fait différentes. Au Nigeria, au Bénin, nous avons une autre histoire par rapport au Togo ou l'Afrique du Sud. Par conséquent, en Africa, il y a une initiative continentale qui vise plusieurs objectifs, dont un est la sensibilisation des preneurs, des décideurs. C'est une réalité parce que dans beaucoup de pays, lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, si ce ne sont pas les questions de sécurité, les gens ne comprennent pas très bien. Donc, nous voulons sensibiliser les décideurs pour qu'ils prennent vraiment conscience des problèmes qui existent et qu'ils fassent des programmes pour les hommes politiques avec des cours sur la cybersécurité. Mais aussi, nous voulons entraîner, former de plus en plus de gens. Actuellement, je pense que nous avons environ 5 pays qui ont vraiment fonctionné et dans lesquels fonctionne vraiment ce système de CERT. Nous aimerions que cela fonctionne davantage. Nous allons travailler avec les professionnels nationaux pour nous assurer qu'ils ont leur propre CERT, certes. Le CERT d'Afrique doit aussi être un dépôt de ce que nous appelons des informations, des documents dont nous avons besoin pour partager tout cela. L'Afrique ne va pas travailler toute seule, elle va travailler avec un partenariat avec le secteur industriel, avec des différents acteurs et qui existent et qui ont leur propre programme. Nous allons créer ces groupes de travail. Avec eux, nous allons intensifier les ateliers sur l'abus de DNS. Nous avons des plans pour le faire. L'Afrique, le CERT d'Afrique essaye actuellement d'enregistrer tout cela et de devenir opérationnel en 2012. Et l'autre question qui a lieu ici en Afrique est le programme pour le respect de la loi pour le service d'ordre. Et c'est un registre qui a établi ce programme il y a 3 ou 4 ans et nous voulons qu'il soit correctement ciblé. Nous ciblons les avocats, les gouvernements et pour les sensibiliser mais aussi pour leur présenter les besoins qui existent pour les besoins qui existent pour réviser leur propre législation. Donc, cet atelier est important. Donc, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus d'intérêts qui entrent en jeu et certains d'entre vous ont on a des élections qui sont tenues dans différents endroits en Afrique. On a un système de phishing dont le contenu a été détourné. Le contenu de certains sites web a été détourné et personne ne pouvait répondre à ce problème. On est allé voir le comité d'élection. On leur a dit on ne sait pas que faire à ce propos. Donc, voilà, il y a différentes histoires qui arrivent en Afrique et il faut éduquer les gens sur ces points-là. Le dernier point, qu'est-ce qui a été fait par Interpol maintenant? Interpol est très actif et travailler avec la police et avoir et créer des départements, avoir une capacité pour un développement de ces systèmes de police. Nous avons aussi un atelier très intéressant parce que la spécificité de ces ateliers de réaliser ces missions était de réaliser ces missions. Nous avons un partenariat entre la police et les experts. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a une symbiose entre la police et les experts. Il y a des pays où on a un manque de confiance. Il s'agit de la sécurité nationale. Et donc, c'est difficile pour ces gens d'inclure des professionnels. Donc, nous avons besoin d'en parler avec eux, d'être sûr qu'ils comprennent que la technologie est en jeu et que c'est important. Donc, voilà. C'était un petit peu les choses que je voulais vous raconter de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ce qui signifie que oui, nous sommes en train d'essayer de nous assurer que les choses évoluent rapidement. Je dirais que ce sont des bonnes nouvelles dans un sens. Merci. Merci, Pierre. Donc, nous avons vu le cas national et maintenant, nous allons voir les activités qui ont lieu au niveau régional. Et je suis heureux de voir que Afrinic et continue à soutenir une série d'activités qui ont été lancées. Bien, continuons et passons maintenant au continent. Sortons du continent et apprenons des différentes perspectives qui existent ailleurs. C'est un encouragement pour nous. Et nous allons maintenant inviter Frédéric Brotrou du Québec, du Canada, qui va nous parler maintenant. Pour ceux qui ont besoin d'une traduction, je vais parler en français.
I'm going to give you a few minutes to take your headsets and put them on. First of all, I would like to start by presenting the Sûreté du Québec. I'm a member of. It's a police organization with a mandate to apply legislation within Quebec, the penal code, and we are based in Canada. Canada is divided in 10 provinces, and Sûreté must apply legislation on Quebec. Quebec, for those who know Canadian geography and history in North America, we are the only province that is fully bilingual. So, of course, for us, it is necessary, it is important to work in French also. And for this, we need to collaborate with police and gendarme entities that also speak French. So, now, after 3 years, there's an organization that was created with the aim of regrouping for training purposes and capacity to exchange information. We created Francopol. It's not, it does not do the same work as Interpol. It's really an organization for exchange of information and investigation at the criminal level, but Francopol is here to exchange information to gendarmes and police officers who speak French and who would need information in French in several topics, especially cybercrime. There's an image here that's been in circulation for a few years. I would like to show them. It's a satire in the New Yorker in 1993, so it's almost 20 years, and that leads to think that on the internet you can be anyone. So if it's true today, the person who did the satire was a visionary, because that's why police services have a real difficulties in front of them. Who is really behind the keyboard when the offense was committed? So in order to know who is behind the keyboard, you need to have certain knowledge and information. For to have this knowledge, you need training and also the assistance of different stakeholders, operators in industry and universities. Next slide. You can see here it's a phenomenon that has been around for certain years. The specificities for this, I don't know if everybody can see here, but this is Interpol sheet. This is a false document that was sent to an internet user in Quebec that was involved in a scheme from the Ivory Coast. So what happened is that the person,
une Ivoirienne, et lorsqu'il est tombé en amour avec cette Ivoirienne, elle l'a convaincu de se présenter sur sa webcam. Donc, il n'y a plus de... Do you want me to slow down? OK. Bon. Alors, nécessairement, l'objectif du monsieur qui était tombé en amour avec l'Ivoirienne, c'était d'avoir son... pouvoir rencontrer cette personne-là. Donc, lorsque la personne s'est aperçue, finalement, le monsieur s'est aperçu qu'il y avait juste lui qui pouvait émettre ses images, il n'y avait jamais de retour. Quelques jours après avoir envoyé des images sur webcam de lui en petite tenue, il a reçu un avis d'Interpol à l'effet qu'il avait commis une infraction en Côte d'Ivoire et qu'immédiatement, il devait payer une amende de 5 000 euros. Sinon, d'une part, il était dénoncé aux autorités canadiennes, et d'autre part, ses images et son vidéo allaient être publiées sur YouTube et éventuellement sur CNN, TF1 et d'autres réseaux télé, à l'effet qu'il était un contrevenant de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, malheureusement, ce n'est pas le seul individu qui est impliqué dans ce type de stratagème. Et nous, lorsque vient le moment d'intervenir pour localiser donc la provenance réelle de ce message frauduleux-là, si on n'a pas la collaboration internationale au niveau des pays ouest-africains, notamment d'où proviennent ce genre de messages, il nous sera impossible donc de pouvoir identifier la source et éventuellement d'enrayer cette problématique. C'est ce qui nous amène à constater que la réalité actuelle au niveau africaine, c'est que actuellement, il y a évidemment une hausse du nombre d'internautes qui est en constante croissance. On augmente prochainement, donc dans les prochaines années, la capacité d'accès à Internet avec une amélioration de la bande passante, notamment au niveau du continent africain. Donc, nous anticipons une hausse de la cybercriminalité. C'est un incontournable. C'est certain que nous, on anticipe un tsunami actuellement. Donc, les besoins en termes de formation, les besoins en termes d'outils également sont très importants, et c'est pourquoi la coopération internationale est essentielle. Nous avons donc profité du forum actuel à l'ICANN pour réunir, en fait, 32 policiers, gendarmes et magistrats du Sénégal à pouvoir assister à un atelier de formation général sur la cybercriminalité et également être en mesure d'écouter leurs besoins dans un objectif de leur apporter un soutien ou un apport plus important, donc au niveau de leur connaissance ou de la formation. Et ICANN nous a permis donc de tenir cet atelier. Et les commentaires reçus des différents intervenants, policiers, gendarmes et magistrats, furent très, très intéressants et nous allons pouvoir capitaliser sur ça dans le futur. Donc, c'était l'objectif de la présentation. J'espère que ça vous a démontré un peu les initiatives en cours. Ça va en continuité avec ce qui a été présenté auparavant par mes collègues ici à la table. Je serai disponible également pour répondre aux questions éventuellement. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Je pense que c'est bien d'avoir quelques initiatives et c'est bien aussi de partager avec la Côte d'Ivoire qui vient qui aborde ce problème. Donc, c'est une bonne chose. Bien, nous allons quitter l'Amérique du Nord et nous allons passer à l'Europe. Et nous avons la chance d'avoir Gary Kibbe, le CEO des agences de contre le crime organisé, qui va nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler doucement pour les traducteurs et d'être le plus clair possible. Je vois qu'ici qu'il y a deux secteurs importants. Le premier, c'est le travail que mon organisation fait dans le service d'ordre. Et le deuxième secteur est un secteur opérationnel, je dirais, pour que la communauté réfléchisse un petit peu au processus dans lequel nous nous trouvons actuellement dans le domaine de la recherche avec des problèmes en particulier. Et je pense que c'est une occasion de partager ces problèmes avec vous. D'abord, l'organisation contre le crime organisé est une organisation basée au Royaume-Uni. C'est une combinaison de plusieurs organes. Et nous avons quelques différences par rapport aux organismes de ce type traditionnel parce que nous cherchons les problèmes de criminalité dans les domaines, les domaines dans lesquels nous cherchons, c'est l'abus de DNS pour le crime organisé, du point de vue du crime organisé. Et les délits graves et l'abus de DNS touche à tout. Donc, tout ce que nous avons fait, les derniers chiffres ont été basés sur des opérations, une crise opérationnelle importante. C'est un secteur dans lequel nous entraînons des gens et c'est pour ça que nous travaillons avec la communauté et nous essayons de travailler nous participons aux réunions d'ICANN pour être représentés auprès d'ICANN. Nous travaillons avec les organisations qui travaillent dans le service d'ordre et dans le respect de la loi à travers le monde entier. Et nous travaillons avec AFRANIC, nous travaillons avec les RAR pour travailler en collaboration avec le service de la loi dans toutes les régions du monde. Nous avons eu des représentants et nous avons rencontré des représentants de tous les continents et lors des réunions d'ICANN. Et donc, ce travail global que nous faisons avec la communauté d'ICANN est très important pour nous. Et je pense que Interpol est représenté comme observateur au sein du GAC pour continuer à mettre en place et à exprimer nos points de vue. En ce qui concerne l'abus de DNS, je suis conscient que j'ai peu de temps. Il est clair que le problème actuel, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est le respect de la loi dans le domaine de l'amendement et des RAR. Ce que nous avons, tout ce qui concerne les différentes manières concernant la diligence due. Nous avons un officier qui travaille de mon bureau lui-même qui travaille actuellement dans le groupe OUIS, qui est un autre secteur important pour travailler dans le domaine du respect de la loi, pour la révision des processus, et nous travaillons dans le, nous appartenons au groupe de travail. Donc, dans le domaine des abus de DNS, ce qui nous inquiète, c'est d'identifier les choses qui peuvent apparaître, qui vont avoir un impact sur notre travail, sur les recherches. Et c'est la communauté et vous-même qui peuvent identifier les secteurs dans lesquels il peut y avoir des problèmes qui nous concernent. Actuellement, ces problèmes, comme les IPv6, les GTLD, les nouveaux GTLD, l'IDN. Nous avons aussi deux officiers, deux bureaux de l'FBI et qui s'occupent et du RCMP qui s'occupe de ce problème pour essayer de comprendre le développement de l'Internet dans le futur. Donc, ce sont des secteurs, des domaines importants parce que pour le respect de la loi, il s'agit d'un défi global, d'un défi mondial. À savoir, la communauté de l'ICANN est un groupe minoritaire et hélas, pour le respect de la loi, et nous sommes aussi une minorité, un groupe minoritaire. Il y a beaucoup de secteurs d'application de respect de la loi qui ne comprennent pas l'importance du travail que l'on fait au sein d'ICANN. Et notre représentation ici, comme le service d'ordre, est vraiment trop bas. Hein. Donc, un des secteurs dans lequel nous avons travaillé actuellement, où nous travaillons actuellement, est le problème de la distribution des malwares. Nous savons tous ce que sont les malwares. Nous savons que les criminels vont utiliser toutes les possibilités pour explorer les faiblesses dans les systèmes et dans les processus, parce que c'est ce que les criminels font. Ils veulent faire de l'argent. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les aspects techniques que je ne comprends pas. Hein. Finalement, c'est bien au-delà de mon travail. Ici, nous parlons des domaines, hein, des personnes qui vont utiliser le contrôle hein, pour prendre ces domaines. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Et c'est quelque chose que l'on a constaté, que l'on constate en permanence à travers les bureaux d'enregistrement. Il n'y a aucune indication, mais ces domaines vont être utilisés pour prendre le contrôle. Et prendre le contrôle signifie que l'on va faire cela pour réaliser une attaque malveillante. Donc, si l'on regarde cela, et si vous étiez une personne qui parle anglais, vous pourriez vous demander de quoi il s'agit hein, sur cette diapo. Et il ne s'agit de rien du tout. Ce sont des opérations automatiques hein, que l'on fait, que font ces criminels, ces délinquants. Ils font ce type d'opération en permanence. Et ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir essayer de rentrer dans notre système. Hein, parce que le système est tel que le processus qui existe actuellement pour l'identification des activités criminelles ne traite pas ce type de problème parce que une fois qu'ils sont identifiés, on a un processus qui va aller auprès du bureau d'enregistrement pour contacter le registrant. S'il est clairement criminel, on a 15 jours plus ou moins. Donc, en 15 jours, ces personnes ont disparu. Donc, nous n'avons pas de solution. Et ce que j'essaie ici, c'est de vous présenter un problème opérationnel en termes de processus. Nous disons le respect de la loi, la diligence due, regarder le registrant. Pourquoi est-ce que le registrant va vouloir enregistrer cela? Est-ce que cela a une valeur commerciale? Donc, chacun de ces points va soutenir le OUIS. Le OUIS s'améliore un peu en termes de délit, de lutte contre le délit. Hein? Mais maintenant, le OUIS demande un niveau raisonnable de diligence due pour dire cela ne fonctionne pas. Donc, ils s'améliorent, ils apprennent, parce que plus nous travaillons au niveau de la loi, au niveau du secteur industriel, beaucoup de gens apprennent beaucoup et répondent de mieux en mieux hein, en termes des problèmes de OUIS. C'est un problème important pour la loi. Donc, l'argent aussi est un problème pour ces enregistrements. Hein, on va faire cela avec des cartes de crédit volées, avec de l'argent virtuel. Ce sont des occasions de voler. Je partage cela avec la communauté parce que si quelqu'un a une idée de cela, ce secteur est basé sur un problème de faiblesse, hein, de faiblesse dans les processus. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager ces soucis, nos préoccupations avec vous. Merci beaucoup. C'était une très bonne une synthèse, hein, et vraiment, j'ai entendu des mots importants, collaboration, éducation, et construction d'une communauté. Et maintenant, je vois qu'il y a des défis dans le domaine du processus. Bien, je vais maintenant vous donner la parole pour les commentaires, pour les questions, pour que vous ayez la possibilité de réagir. Allez-y, le micro est ouvert et nous avons une dizaine de minutes pour les questions. Merci. Est utile que vous mentionniez votre nom. Gary, une question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'amendement du RAR sur lequel vous travaillez et dans quel sens vous pensez que ce sera efficace? C'est Steve Del Bianco qui a pris la parole, qui a posé la question. Je pense que la question des RAA est une question importante. Je pense que ça a été très documenté en ce qui concerne l'application de la loi. Il y a eu différentes discussions au cours desquelles on a entre le GNSO et le GAC et au cours desquelles les recommandations ont été faites pour que on traite ces problèmes concernant l'abus de DNS. Je pense que les délinquants appartiennent au processus de l'évolution tel qu'il est et quel que soit le processus que nous suivons, les criminels vont regarder cela. Donc c'est une question qu'il faut continuer à partager des deux côtés. Donc en termes de recommandations, je dirais qu'ils sont bien documentés et je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de voir ces recommandations, les recommandations spécifiques qui existent. Bien, vous avez peut-être dit cela pendant la session, mais dans le but, votre nom, s'il vous plaît. Yetinji Nonshon. Dans le but d'affronter le problème de l'abus de DNS, comment est-ce qu'on peut bloquer les demandes réelles de DNS? Comment éviter de bloquer ces demandes? Des fois, on constate que les véritables IP sont bloqués parce que des personnes sont en train d'essayer de faire un abus de DNS, non? Larry, vous voulez répondre à cette question? Je pense que on a abordé cette question. On peut laisser cela pour la session des DNS, hein, et de la annulation de DNS ou l'élimination du DNS. Je suis Mary, je suis du Nigeria et je voudrais dire que les agences de respect de la loi sont vraiment... Est-ce qu'elles travaillent vraiment sur le cybercrime et quelques découvertes sont les suites, quelques-unes de mes découvertes, hein, à cause de l'enregistrement de nos domaines dans IP, s'il y a un délit. Le IP peut ne pas être d'Afrinique, peut ne pas être du Nigeria. Il peut être de n'importe où, de Chine, par exemple. Et la légalité de l'adresse IP est remise en question. Donc, il est très difficile pour eux de savoir qui est derrière ce délit. Ça, c'est le premier. L'autre problème est que les personnes... Il me semble que lorsque le problème de travail entre deux ordinateurs a été développé sur Internet, personne n'a pensé à voir comment mettre un visage derrière un nom de domaine ou derrière une adresse IP. Donc je pense que qui veut lutter contre cela, que ce soit au niveau du respect de la loi ou d'autres choses, nous avons besoin de voir l'IPv6. Nous devons nous occuper de cette brèche que l'IPv4 n'avait pas, c'est-à-dire quel est le visage qui est derrière cela, puisqu'on peut s'enregistrer de n'importe où. Donc, ce n'est pas vraiment... Il ne faut pas que ce soit... Les spams, par exemple, dans le cas du Nigeria, ne viennent peut-être pas tous du Nigeria. Hein? Donc, les faits restent qu'on ne peut pas mettre la main sur la personne qui a enregistré l'IP ou le nom de domaine qui est abusé. Et donc, je voudrais proposer ou questionner le fait que... Je voudrais dire que la communauté Internet regarde ça et voudrait savoir comment obtenir cela. Donc, même lorsque nous faisons, lorsque nous parlons de la cybersécurité ou du cybercrime, hein, et lorsque nous essayons de lutter contre cela, comme le dernier orateur l'a dit, bloquer des adresses IP qui sont bonnes, ce n'est pas juste, hein, parce que cela arrive dans ce processus des adresses de lutte contre l'abus de DNS.
But it seems to me, I hope you are not asking us to put identification information in the DNS.
Well, my name is Nike, and I'm also from Nigeria. I didn't want to talk, but I think I need to talk. Because what she just said is correct. We've done research in university, and we found out that some of the males ascribed to Nigeria were not actually coming from Nigeria. And I have, I'll give the address of that paper, and it's on the internet. Some of those things are really not coming from Nigeria. Thank you.
Well, that is true, but the way you gain the trust is to be working your issues locally and relating to the global. So we still have to do some song and dance in that area in our own. Yes. Please, go ahead.
J'aimerais faire un commentaire sur la question du Nigeria. Je dois féliciter la police du Nigeria qui a travaillé fort avec la police américaine pour adresser le problème du 409. Il y a eu beaucoup de démarches en commun avec des armes lourdes. Je pense que le Nigeria s'attaque à ce problème sérieusement, mais ce qu'on voit maintenant, c'est que beaucoup de gens le font et qui maintenant vont de l'autre côté de la frontière pour faire le même crime. Lorsque vous appuyez sur quelque part, ils vont ailleurs pour commettre des crimes. D'autres pays sont maintenant impliqués, mais c'est une des choses où ça donne l'exemple. Ça explique pourquoi il faut que ce soit une solution globale au problème. Je voulais vraiment montrer mon soutien aux officiels nigériens pour le bon travail accompli. Je voulais le remercier pour les compliments. Nous faisons vraiment beaucoup pour réduire la menace, mais on devait d'abord admettre que le crime, le cybercrime, les pourriels venaient de le Nigeria. Ça, c'est le vrai. Et le gouvernement l'a admis. Ils ont mis sur pied les FCC et ils collaborent avec des organisations de police, par exemple du Royaume-Uni. Ils font du travail en Nigeria et les États-Unis également. Donc, nous collaborons et nous luttons. Et les criminels s'en vont du Nigeria. Donc, maintenant, est presque libre de tout crime grâce à aux efforts de la police. Maintenant, vous êtes libre de faire des transactions, de faire des affaires avec le Nigeria. Nikwenor, je suis de la Fondation Internet et j'avais un commentaire sur le problème présenté par Gary Kibi qui a souligner la précision des WHOIS en Estonie l'année dernière. Nous avons élaboré une solution selon laquelle le registre de domaine, avec chaque nom de domaine, il y a une personne privée qui est connectée à une compagnie qui est responsable de ce nom de domaine, et cette personne privée ou compagnie est également identifiée. Donc, il n'y a pas d'anonymat, d'une description anonyme dans le registre de domaine. Et nous avons beaucoup de noms de domaine, environ 4000. Cette solution peut être échelonnée à l'échelle mondiale. Elle est basée sur FAA. TF 40 plus 9 sur, recommandations sur le financement et selon ce groupe d'unités Internet financiers, ce cadre de travail est déjà introduit dans plus de 100 pays. Donc, nous avons modifié le protocole IPP pour que les registres puissent attacher des informations à ce protocole pour prouver l'identification des registrants et utiliser et les informations qui améliorent cette authentification des registrants avec une inscription du nom de domaine. Nous stockons cette donnée d'authentification dans notre centre de registre. C'est très intéressant. Merci. Nous allons approfondir. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Nous allons passer à la seconde session et celle-ci, c'est donc comment attaquer les comportements malicieux impliquant des noms de domaine. Toute cette lutte a évolué de la théorie à la pratique. L'absence de politique ICANN uniforme pour aborder ces préoccupations, les professionnels de sécurité, la police, les agences de police et les compagnies privées se basent sur une coopération volontaire ou un processus juridique pour accomplir ces luttes. Les panélistes vont explorer l'efficacité et les défis associés à ces pratiques et le rôle d'ICANN dans celle-ci. Nous avons, je crois, quatre présentateurs. Donc, je demanderai à Michael Moran de Interpol de mener la discussion. Since I speak French.
Commencer en français et de voir tout le monde qui panique et va chercher les écouteurs. Afterwards, then I'll continue in English and they'll all say, what the hell is he doing? Even the translators go a little bit crazy when I do that.
Yes, and je vais continuer en anglais.
Hi, Berno English, yes. Michael Moran from Interpol.
Michael Moran, je suis irlandais. Vous avez sûrement peut-être deviné à mon accent. Et tout ce domaine de ce qu'ICANN peut faire sur les noms de domaine et ce que quelqu'un, n'importe qui peut faire au sujet des noms de domaine, peut-être que les vendeurs de noms de domaine pourraient en faire quelque chose et peut-être que ce serait bien d'ouvrir sur l'idée que Monsieur le Public, Joe Public, sa mère l'appelle Joseph, mais tout le monde l'appelle Joe, que Joe Public va découvrir, on lui a dit qu'il peut aller à une base de données Whois et il peut trouver où le nom de domaine provient, la personne chargée de ce nom de domaine. Finalement, il se trouve à aller dans des solutions des sites web de solutions de réseau parce qu'il est listé comme ces compagnies qui ont vendu ces domaines. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a environ une heure de cela, et il essaie de trouver où sur ce site web il peut aller pour dire qu'il a un problème avec un produit vendu par cette compagnie. Donc, il y va et il va à tout ceci ici. Il peut acheter tous les noms de domaine ici et avoir 40% de rabais sur les certificats SSL. Ils peuvent même aller ici et avoir 40%. Il peut acheter un domaine XXX parce que Sunrise est ici. Il peut avoir le site web mobile, avoir un exchange de haute Microsoft. Il peut aller aussi au petit caractère et chercher, et il ne trouvera pas l'abus nulle part. Donc, il va essayer de contacter la compagnie, et là, il va trouver tout au sujet des ventes et du service à la clientèle, mais il ne pourra pas trouver quoi que ce soit au sujet de quoi que ce soit. Donc, il va faire un peu de recherche additionnelle et il trouve Peter Public son frère, et vu lui, il décide qu'il va contacter la personne avec qui il a un problème au sujet du problème qu'il avait la semaine prochaine, d'après. Donc il va nomme parce que c'est lui qui a vendu le site web problématique. Il passe en vue toute la liste lorsqu'il va jusqu'en bas et il regarde toutes les jeunes, jolies filles qui vendent des plugins. Il va en bas et de la page et finalement il trouve rapporté l'abus de domaine. Bravo, Inom, très bien. Donc il rentre et dit, je veux rapporter le fait que j'ai été victime d'un comportement malveillant de votre client, et il voit qu'il ne peut pas rapporter quoi que ce soit sur la pornographie enfantine, l'hameçonnage, mais il peut rapporter des pourriels. Il a reçu des spams. Donc, il peut rapporter des spams, au moins il peut le faire. Parce que lorsqu'il a appelé son cousin Phileas, et que Phileas Public, lui, avait un problème avec GoDaddy, qui est une fantastique compagnie, beaucoup de gens beaux et brillants qui vendent des produits magnifiques, et je ne vais jamais critiquer une entreprise pour faire de l'argent, parce que c'est ce que font les compagnies, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils font de l'argent. Donc, finalement, ils regardent tous les beaux gens, les belles personnes, et c'est ce que 9,99 $ pour le nouveau.com, et il va ici à toutes les rues, les onglets. Non, on ne peut pas rapporter les abus. Ah, finalement, rapporter un pourriel, mais c'est seulement un problème de malveillant, de programme malveillant, mais au moins il peut faire un rapport. Donc il va rapporter pourriel, il rentre et il trouve qu'il peut mettre son nom, son adresse, et il y a un menu déroulant. Est-ce qu'il peut dire qu'il y a eu un hameçonnage? Il peut voir. Regardez jusqu'en bas. Il peut rapporter divers. Donc, bravo, GoDaddy. C'est que, tout simplement, c'est 10 spams. Donc, courriel au début. Mais je ne peux pas parler d'hameçonnage, mais je ne peux pas rapporter de documents d'abus de pornographie des enfants. Mais je peux, mais théoriquement. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre dans le temps qui me reste, c'est que pourquoi est-ce que certaines entreprises ne prendront aucun rapport? C'est très difficile de les trouver, et d'autres ne prendront des rapports que sur des pourriels et où ils ne le montrent. Bien sûr, je peux rapporter ce que je veux parce que je suis Phyllis Public, Joe Public et Peter Public, et je suis une personne raisonnablement intelligente. Je sais que je peux rapporter ce matériau, même si je peux le rapporter comme document pornographique, même s'il est dit que je ne peux rapporter que du pourriel. Pourquoi seulement les pourriels? Pourquoi est-ce que l'abus ne pourrait pas être rapporté de manière normale? Pourquoi le pourriel ne pourrait être... Pourquoi le pourriel ne peut être rapporté de manière normale ou autre type de crime de manière normale, de même que pour les pourriels, par les deux bons acteurs qui prendront le rapport, par rapport à ceux qui ne sont même pas intéressés à recevoir les rapports? Est-ce que c'est question d'intérêt ou bien de renier l'esprit de RFC 1242 écrit par Steve Crocker? Je ne sais pas, c'est peut-être un vieil homme. Ah, c'est Dave, c'est son frère. Mais je sais que Steve est quelque part. Steve, il a ajouté des choses aussi. Steve et Dave sont deux vieux hommes qui sont en train de fumer leur pipe sur une véranda quelque part. Mais si on cherche, on va trouver le mot abus et on va voir qu'il y a plusieurs problèmes, dont un étant les domaines devraient avoir abus à domaine, point, quoi que ce, n'importe quoi. Il devrait avoir des relations pour la clientèle, pour faire quoi? Pour les comportements publics inappropriés. Et j'accepte que les compagnies doivent investir des ressources, mais j'accepte, je m'attends qu'il y aurait de grandes quantités. Et pour le thé, est-ce que, dites-moi ce que je vais, qu'est-ce que je mange pour le dîner? Vous avez plus de temps là. Pourquoi? Parce que les trois entreprises que je vais vous montrer sont les parmi les plus grandes. Et ils violent l'esprit du ARC et ils donnent vraiment le RFC et ils donnent beaucoup de mauvais exemples aux autres, aux acteurs inférieurs. Donc vous avez le haut et ensuite vous avez les vendeurs et jusqu'en bas, les petits acteurs dans ce jeu. Et c'est le mauvais exemple qui commence jusqu'en haut. Et c'est votre. Il dit si vous avez un problème, parce que c'est vous, parce que c'est certainement pas le mien. Et j'aimerais que cela change. Merci.
Thank you very much. That was very clearly stated.
Merci, c'était très clair. Maintenant, je voudrais inviter Rod Rasmussen, un groupe de travail qui va nous donner son point de vue. Je suis heureux que vous soyez le suivant. OK. Donc, je vais vous parler de quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de l'abus du processus de suspension de résolution d'abus de nom de domaine. Bien. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela, de ce processus de révision, je vais vous parler de ses objectifs. Il y a une façon pour les gens qui travaillent dans le respect de la loi ou dans les services de l'ordre ou qui ont des noms de domaine, qui ont comme une grande banque, une compagnie, une marque importante et qui ont une façon de travailler avec les registres, d'interagir avec eux en toute confiance et qui ont un système très précis et contrôlé, un système fiable pour faire la suspension de domaine. Donc ici, nous allons aller au cœur de la question pour savoir ce qui existe, le rôle, la façon dont les gens interagisent dans le secteur de la suspension de nom de domaine et l'échelonnement est la meilleure façon de travailler dans le système. Et cela peut être fait comme un processus qui doit être possible de répéter. Donc voilà, c'est de ça que je vais parler. Et il s'agit strictement du cas des registres, des domaines qui sont enregistrés par des personnes délinquantes. Ce n'est pas pour annuler des noms de domaines qui n'ont pas pu, qui ont des problèmes. Les sites de phishing sont dans des services de noms de domaine qui sont compromis. Hein. Donc, on a des cas où ce n'est pas le nom de domaine qui est éligible, c'est seulement le nom de domaine qui est enregistré par des délinquants. Donc, nous avons une série d'indicateurs concernant les détails ici, tout ce dont il faut tenir compte normalement, le processus qui est rapporté pour la suspension du nom de domaine et les différents critères utilisés. Nous avons déjà discuté de certains de ces points. Quel est le risque d'intervenir avec des gens qui essaient de suspendre les noms de domaine et pour la partie qui est de l'autre côté, le registre et le registraire avec lequel on travaille, avec lequel ils travaillent. C'est un problème et je dirais que ça peut donner beaucoup de problèmes à tout le monde. Donc, c'est un petit peu ce qui explique notre travail. La fondement ici et que nous voulons que ces systèmes soient remplacés et nous voulons construire un système, un modèle dans lequel on pourra maîtriser les abus avec une large gamme de communautés fiables et aller plus vite lorsque nos opposants s'occupent de ces questions. Actuellement, nous avons des barrières qui existent entre nous. Alors que nous sommes du même côté, nous luttons contre les mêmes choses. Hein? Donc nous voulons surmonter ces barrières. Voilà ici, vous voyez, cette 3.1. Ma première présentation a été faite à Los Angeles, je pense. Et c'était une idée brillante. Nous avions un système, nous avons regardé. Il y avait une réunion qui avait lieu à San Diego. On est allé. Et APWG avait une réunion à San Diego. On a regardé le programme. C'est un programme dans lequel on parlait de suspension. Donc, ça nous intéressait. Donc, on a travaillé avec notre propre groupe, Beta. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail cette question, mais nous avons exposé les critères. Les gens connaissaient ce document. Il y avait beaucoup de documentation que les gens devaient remplir pour entrer dans le programme, pour s'assurer que l'on avait une partie légitime dont les employés étaient vérifiés et qu'il s'agissait d'une organisation financière entrepreneuriale qui était sûre, tout était couvert. La personne faisait une demande si elle avait un problème avec sa demande, on s'assurait et que tout allait bien. Voilà, c'est ce que un candidat va voir. Il y a tout un processus pour faire une demande de candidature pour les utilisateurs du système. Il y a différents rôles qui sont joués par le directeur. Il y a un comité qui va contrôler les crédentiels de ceux qui se présentent, se portent candidats et s'ils peuvent participer au programme, si cette organisation a le droit de participer à ce programme. Ensuite, on va vérifier les individus qui appartiennent à cette organisation. Voilà, c'est ce que ça donne pour l'intervenant lui-même. Nous travaillons avec un logiciel qui nous a donné de bons résultats ces dernières années. Voilà le minimum requis. Ben ici, vous voyez la demande. Il faut rentrer dans le domaine. Il faut donner le site Internet. Il faut voir. Il y a des prérequis très élevés dans le domaine des contenus malveillants et des contenus non légitimes. Et vous allez signer tout cela électroniquement. Ensuite, il y a. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Ici, vous voyez. Et je dois donc présenter les critères. Et dire. C'est parce que cela permet de suivre, d'avoir une série de statistiques sur ce qui est. Sur ce qu'on a demandé de suspendre. Donc, cela donne lieu à des recherches approfondies pour voir un petit peu ce qu'on va faire en tant que communauté pour donc résoudre ces problèmes, hein, non pas seulement du point de vue de la recherche, hein, mais aussi qu'est-ce que le registre va pouvoir faire. Et ils vont décider, on va leur faire une demande, ils vont décider ce que le processus va faire avec cette demande en particulier. Et donc, ils vont avoir cette relation avec le registrant et cela se base sur le niveau du registre. On peut rejeter cela, sauf si on a besoin davantage d'informations. Je vais vous donner une invitation. Ça dure une minute, ça dure. Hein? Voilà. Il y a un système de suivi. Voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés, avoir des informations, quel est le statut des différentes requêtes, des différentes demandes. Et voilà la dernière diapo. Bien. Je crois que d'une certaine façon, nous avons créé un système rigoureux qui est applicable et qui peut être modifié. Nous avons des membres dans notre programme, nous avons 7 registres, nous avons des CCD, des GTLD qui sont intéressés par le programme et certains d'entre eux n'ont pas rendu cette information publique encore. Donc, il y a des noms ici, une liste que je ne peux pas vous montrer. Et je sais que j'ai déjà parlé avec différents registres au cours de ces dernières années. Donc, si vous êtes un registre et un registraire, nous allons... s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Rod.
Okay, we move on to
bien, on continue. On passe à Don Blumenthal du registre d'Internet public des États-Unis. Je vous remercie. Don Blumenthal. Je ne vois pas. Voilà. Voilà mes diapositives. Je suis ici pour l'intérêt public et il est clair que notre rôle ici dans le domaine, dans l'annulation de domaine, et c'est que nous donnons des ordres pour retirer le domaine du système. Et les PAR sont intéressés pour travailler avec la loi et nous aider. C'est une. Le nom de notre organisation, le registre d'intérêt public, hein, ça implique cela. Nous avons un rôle qui concerne l'intérêt public que nous prenons tout à fait au sérieux. Et les personnes qui font respecter la loi sur Internet n'existent plus. Donc, il y a une espèce de conscience de faire ce qu'il faut faire. J'ai travaillé pendant des années dans le domaine du service de l'ordre et je pense que c'est important d'essayer de trouver ici et des mesures à prendre. On a entendu ici la suspension de domaine, on a entendu le redirectionnement, le blocage de domaine, le filtrage de domaine. Et il y a une série de termes qu'on utilise sur Internet actuellement. Je pense qu'une partie du rôle que nous pouvons jouer ici, ou du rôle que je peux jouer, est de suggérer que toutes les différentes techniques ont des forces et des faiblesses. Les problèmes ici cruciaux dans toutes les actions de respect de la loi sur Internet est d'avoir un contenu sur le système pour s'assurer de retirer le contenu du système pour s'assurer qu'il ne sera plus disponible. Et lorsqu'on fait un redirectionnement, lorsqu'on retire, ce n'est pas, à mon avis, la meilleure façon de le faire. Et on peut faire ce qu'on veut. On peut aller et dire fermer ce serveur. C'était facile lorsque le serveur était en Virginie, le juge était en Virginie et où nous étions à Washington. C'était facile. À ce moment-là, on faisait tout cela en 15 minutes ou dans un rayon de 15 kilomètres. Mais ça ne marche plus et ça ne se passe plus comme ça. Et les gens sont devenus trop intelligents en termes de dispersion de contenu, utilisation de différents domaines de premier niveau, différentes techniques pour éviter ce type d'action. À nouveau, je dirais que chaque mesure a sa force et sa faiblesse, et chaque mesure a des effets potentiels. Parfois, on regarde et on dit, est-ce que c'est le remède ? Est-ce que ces effets collatéraux sont plus graves que le remède? Il y a actuellement un débat qui a lieu aux États-Unis concernant l'utilisation de du redirectionnement. Le redirectionnement du trafic peut parfois être très utile dans certaines situations, mais dans d'autres situations, cela ne l'est pas, notamment lorsqu'on parle de problème de propriété. Les gens doivent avoir un encouragement pour essayer d'éviter l'ordre du tribunal. C'est facile à faire. Donc ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine? D'autre part, le redirectionnement pour arrêter un problème de courriel, un problème de spam. Beaucoup de personnes vont essayer d'arrêter des délinquants qui ont des activités dans le domaine des malwares. Mais je pense qu'il faut essayer d'évaluer quel est l'objectif de ces gens-là. Et cela avec un mécanisme d'application de la loi approprié. Je pense que les autres choses qui sont en jeu ici, on en a parlé dans d'autres sessions, c'est pour un service d'application de la loi dans les communautés de registraires, de registres, et qu'ils soient en contact les uns avec les autres. On peut espérer qu'en utilisant la bonne terminologie pour accomplir ce qui est nécessaire, on a eu un ordre il n'y a pas longtemps de retrait dans lequel on disait on vous donne seulement la moitié de l'information nécessaire pour le faire. Nous voulons le faire maintenant. Il a fallu retourner voir le procureur et lui dire écoutez, nous ne pouvons pas le faire. Donc il y a un secteur dans lequel on doit travailler avec la loi pour essayer de mieux viser, de mieux cibler notre activité. Il y a quelques années, il y a eu un domaine qui a été retiré, mais parce que on avait de nombreux domaines qui étaient parallèles, qui ont été détruits aussi, qui ont été annulés aussi. Donc il faut vraiment identifier la meilleure façon au niveau technique de faire cela, la meilleure façon de s'assurer que les choses sont faites dans le bon ordre, correctement, pour qu'elles n'aient pas d'effets secondaires dangereux. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Je pense que nous allons passer à la dernière présentation qui sera de Titi Akimsamni de l'Université de Sweetwaterstrand en Afrique du Sud. Merci, monsieur. Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai la dernière portion de la session et je vais donc faire quelques commentaires à la fin de cette présentation. Donc, je vais parler lentement, pas pour les interprètes, mais je vais passer en revue mes diapositives plus rapidement pour pouvoir présenter les quelques points que j'ai notés dans la conversation. Donc, les attaques des noms de domaine et la violation des droits d'Internet et la liberté. Je parle comme quelqu'un qui est souvent prise entre le processus de comprendre les raisons pour lesquelles les noms de domaine sont éliminés et j'ai la possibilité d'avoir accès à tout ce dont j'ai besoin. Et je regarde de loin où les criminels m'ont visé, soit j'étais vraiment très importante pour 3 milliards de dollars qui doivent être déplacés d'ici à là ou qui ont, lorsqu'on parle, ils affirment que c'est des membres de ma famille lointains et les cartes de crédit ont été utilisées pour faire des achats et mon identité volée. Donc, je vais présenter différentes tendances que j'ai remarquées, surtout le cas d'Afrique du Sud. Je vais mentionner, je suis nigériane par naissance. Oui, faites des affaires avec nous. Nous sommes un bon peuple, mais j'habite à Johannesburg et c'est là que j'habite depuis 8 ans. Et ensuite, je vais parler surtout sur le concept de progression en respectant les droits et les libertés, peu importe la direction qu'ils prennent, et surtout le rôle d'ICANN. Le juge Orwell a dit que George Orwell a dit en 1944 que le mot est presque sans sens et la liberté sans sens. Donc, je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas combien de personnes connaissent le programme ICE. Et surtout, je parle à la lutte contre rotodirector.com. J'adore le football et j'étais vraiment contente que Manchester City ait battu Manchester United. Mais parfois, comme j'habite dans un pays en voie de développement, je n'ai pas l'accès pour voir ces parties. Donc, je dois aller à rotodirector.com. Et j'ai consulté le site et un jour, je peux voir les forums, je peux avoir accès à tout cela parce que j'ai suffisamment d'informations et j'ai accès, j'ai assez de connaissances pour le faire et je comprends que cela a été mis en panne même lorsque les tribunaux espagnols ont dit que ce site est légal. Mais une autre institution, un autre gouvernement est capable de l'éliminer. Voilà, et il est parti. Pas seulement un, mais également rotadirector.org. Donc, vous pouvez amener le Dalai Lama, tout ce que vous voulez, mais quand on dit on va vous faire tomber, on va faire tomber, et c'est fini. Et ensuite, il y a l'affaire Wikileaks que j'appelle. Donc, l'élimination furtive. Donc, ça, je ne suis pas pour ce que fait Wikileaks. Ça, cette conversation est pour un autre forum. Mais Wikileaks n'est pas éliminé directement, mais de manière furtive. J'adore James Bond. Les opérations James Bond ont eu lieu avec Wikileaks. Et au cours des dernières 12, même pas 12, mais 5 heures, Julian Assange a dû annoncer qu'ils doivent arrêter de publier parce qu'ils ont des difficultés financières, parce que quelqu'un, quelque part, qui, je ne sais pas, il n'y a pas d'institution, de gouvernement, secteur privé ou autre, a réussi à bloquer leur habilité, leur capacité à recevoir des fonds, même le système de base. Donc, c'est une façon très créatrice, très innovante d'éliminer un site web. Donc, l'Afrique du Sud, pour ramener les choses à ce que je connais, donc la législation électronique en Afrique du Sud offre une protection pour la responsabilité des ISP afin qu'ils reçoivent un avis pour éliminer quelque chose et qu'ils agissent. Ils sont protégés ou ils n'ont pas agi là-dessus, alors ils ne sont pas protégés. Et si vous êtes celui qui avait ce contenu, le contenu étant le nom, le système de DNS, vous êtes protégé jusqu'à une certaine mesure, mais si vous suivez ce que nous disons, mais quelque part, au milieu, on revient à la conversation que j'avais eue avant pour regarder mon football. Et je ne peux le regarder d'aucune autre manière. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il à l'utilisateur final pris au milieu? Et par rapport à la session, je voulais dire que j'aime la légitimité. J'aime avoir des informations correctes. Une des choses que je voulais avoir, c'est que je suis allée sur l'association des fournisseurs de services Internet pour l'Afrique du Sud. J'ai demandé des données pour le type de demande d'élimination. On m'a demandé qui êtes-vous et pourquoi vous voulez l'information. Je suis un utilisateur Internet et j'ai le droit de poser cette question. Ce n'est pas des informations classées, mais qui êtes-vous et pourquoi vous avez besoin de cette information? Et j'ai dit, je suis un membre ALAC de ICANN et j'ai eu les informations. Donc, ça vaut la peine d'être membre de ALAC. Ça sert à quelque chose. Donc, j'ai obtenu les informations que depuis avril 2005, ils ont eu des requêtes pour 284 mises en service. Et ce qui s'est passé avec ISBAD, qui est l'association d'Afrique du Sud, il y a certains membres qui a une requête de mise au service, il n'y aura pas de problème avec GoDaddy. Il s'est marqué, c'est l'adresse email à laquelle vous répondez pour chaque requête. Une fois que cela est fait, il n'y a aucune clarté sur la propriété, le propriétaire du nom de domaine qui sera informé. Et vous pouvez avoir accès au nom de domaine ce matin, mais deux minutes après, c'est parti. Donc, en 2010, il y a eu 148 mises en service, requêtes de mise en service. Parmi celles-là, 80% ont été approuvées. Donc, ma prochaine question de cette organisation de membres, est-ce que je pourrais avoir les détails de type de contenu des noms de domaines qui ont été mis en service? Je suis optimiste, je demande. Et on m'a dit, non, on a besoin d'une reconnaissance formelle, officielle de qui vous êtes. On ne donne plus d'informations. Je pars trop vite, désolée. Donc, finalement, on m'a dit, vous ne pouvez pas avoir ces informations, on a besoin davantage d'informations sur qui vous êtes et ce que les fins. Donc, ISPA, lorsque vous entendez, c'est ce que, voilà, vous dites, j'en ai besoin pour cela. Donc, c'est ma suggestion. C'est de là que je parle dans une pièce remplie de personnes informées. Donc, je fais attention pour ne pas essayer d'aborder les mêmes problèmes sans arrêt. L'Internet, il y a des droits fondamentaux et vous avez des droits fondamentaux qui se répercutent sur l'Internet et nous devons aborder 6 d'entre eux. L'Internet est pour tout le monde, alors vous devez pouvoir vous assurer que si vous allez me refuser l'accès à certaines des choses dont j'ai besoin, que je sois informé. Deuxièmement, la liberté d'expression et d'association. C'est une discussion très longue, on ne va pas continuer, mais donc il y a accès aux connaissances, à l'apprentissage, à la création et bien sûr, je pense, 3 autres thèmes. Donc, si vous voulez davantage sur ces droits, allez à apc.org. Donc, j'ai parlé de la procédure en Afrique Afrique du Sud. Donc, c'est l'approche que je prends lors d'un cas parce que je pense qu'on nous a dit spécifiquement que nous devons parler de ce que I can fail. Je suis la seule femme, je demande la possibilité de m'exprimer là-dessus. On vous a entendu. Donc, la question soulevée, la première, est-ce que c'est une violation? Quel type de question est soulevée comme pour la qualifier d'abus? Et une fois qu'un suivi doit être préemptif, cela doit être affiché publiquement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations de ICE. On nous obéit pas. On n'a pas d'informations de ICE sur les tribunaux espagnols. Donc, les parties doivent être informées. Troisièmement, à chaque fois qu'il existe des règles intermédiaires, il faut les explorer. Je ne dis pas que ce n'est pas dans mes mains de soulever cette question, mais si nous cherchions une certaine forme de système, ça fonctionnerait pour les 3 parties, c'est-à-dire les agences de police qui ont le droit de pouvoir s'assurer qu'on soit en ligne sans danger, également pour s'assurer que les criminels soient pris dans les délais et que ces choses soient éliminées quand c'est nécessaire, jusqu'au troisième niveau, lorsque les institutions, les utilisateurs finaux doivent se sentir en sécurité et sans violation. Et ensuite, le coût. Qui va payer pour cela? Deuxièmement, quel système juridique, mais non judiciaire, peut servir de plateforme juridique pour résoudre ces problèmes? ICANN doit être dans une position pour que les éliminations de noms de domaine, les mises en service de noms de domaine, surtout ces questions puissent être abordées, avoir une pensée collective là-dessus et empêcher les influences négatives. Je donne 2 exemples, de manière furtive et l'autre de manière dictatoriale, peu importe comment vous le qualifiez, en étant agressif. Donc, on doit trouver un système où il ne peut pas y avoir d'abus facile par les intérêts de secteur privé ou public. Donc, pour conclure, j'aimerais dire ce qui suit. Les mises en service DNS est quelque chose de complexe. L'industrie et les gouvernements qui sont en mesure de d'aborder les problèmes liés à la mise en service de noms de domaine le font avec un certain succès, mais la question demeure, si moi, en tant qu'utilisateur final, je dois pouvoir rapporter des problèmes, vers qui dois-je me tourner? Et bien sûr, à part si la personne qui a tué l'ambassadeur nigérien avait des remèdes, des recours, il ne l'aurait pas tué. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps, donc j'aimerais aller directement et obtenir des commentaires du public. Si je peux dire brièvement, c'est un bon exemple de comme la facilité de contourner des décisions du tribunal. Si le site a été remis en service rapidement. Je suis Bertrand Lachapelle et je suis un membre du directeur ICANN et je suis représentant du GAC français. Et je veux dire qu'au cours d'un an et demi, la discussion sur les défis confrontés par la police, malgré tous les problèmes qui émergent actuellement, pour moi, la discussion est plus factuelle. Et je veux soulever deux arguments. Le premier est pour Michael Warren. J'ai vraiment aimé votre discussion, mais si je regarde d'une autre perspective, si je veux aller au site web du registraire pour faire une plainte, il faut comprendre le système. Vous êtes exposé à les ruises et voir qui était la personne qui a enregistré le registraire, qui était le registraire. Donc, une des questions que je voulais demander, c'est quel type de discussion est-ce qu'il y a eu pour d'autres types d'opérateurs. Par exemple, je pense ou des choses que les utilisateurs utilisent pour comme un simple réflexe. Et second point, c'est par rapport à ce que Titi disait. Je voulais formuler le problème qu'elle a décrit pour ICE, par exemple, comme problème de souveraineté fondamentale, qui est un problème de compétence. Aujourd'hui, c'est la question suivante. Comment est-ce que le gouvernement national se sent lorsque une activité menée par un citoyen de ce pays, qui est absolument légale selon ce pays, sont empêchées par un tribunal d'un pays B parce que le nom de domaine que cette personne utilise a été acheté à travers soit un registraire dans le pays B ou j'imagine même par le registre du pays B. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que simplement parce que .com et .org sont des registres qui sont basés dans la compétence des tribunaux américains, la juridiction américaine, les tribunaux, la législation peut être applicable sur tous les sous-domaines enregistrés dans le registre. C'est une question de nature juridique. On va prendre quelques questions. Je vais lire une question du chat. Et quelqu'un du panel, n'importe qui des panélistes peut répondre. Comment est-ce que les mises en service des DNS vont fonctionner avec le DNS collègue à collègue qui sans contrôle central? Je crois pas aussi bien, je crois. Cela dépend, bien sûr. Donc, du point de vue de l'élimination de nom de domaine, de la racine d'un TLD, c'est la même chose. Peu importe si c'est peer-à-peer ou autre. Du point de vue du filtrage et du blocage, ça dépend de où vous le faites, au sein de votre propre réseau, peu importe, parce que votre résolveur de DNS, c'est celui qui fait le filtrage ou le blocage de pair à pair. Donc, il va continuer, peu importe les ressources que vous protégez derrière, il va continuer à marcher. Si le blocage ou le filtrage est upstream, ça va probablement pas marcher très bien. Donc, ça dépend de où vous allez faire le blocage et comment vous allez le faire. Je voulais dire poser une question à Bertrand de la Chapelle. Je suis d'accord, nous, dans la police, et je dis nous, la police, parce que la police, nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche. Et j'ai eu un sergent qui disait, qu'est-ce que votre mère penserait si ma mère disait qu'elle perdait de l'argent sur eBay, excusez-moi, n'importe quelle installation en ligne, elle ne peut pas le faire. C'est pas parce que nous sommes encore perdus dans la brume, mais le plus grand problème que nous ayons, vous avez pas un navigateur, mais les personnes des droits civiques, l'industrie, la police, les universités, c'est les paramètres de mesure, les métriques. On ne connaît pas l'étendue du problème, on ne connaît pas la définition de ce problème. Donc, dans un pays, le cybercrime est défini différemment et les rapports sont enregistrés différemment et parfois pas du tout. Et le résultat est que nous ne pouvons avoir de bonnes politiques et aborder des problèmes difficiles tels que Titi a mentionné sans savoir la portée, l'étendue, la gravité du problème. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une plateforme de rapport Oui. Bien. Alex. Bonjour, je m'appelle Alejandro Pisanti. Je suis professeur de l'Université nationale du Mexico et président de la succursale de Mexico pour l'Internet. Le blocage de filtrage de noms de domaine partage beaucoup de caractéristiques avec les différentes formes de blocage sur Internet qui a été. Je veux dire, présenter ma perspective à M. Moran parce que je ne peux. Interpol bloque mon. Je suis donc venue à Dakar et 18 000 kilomètres de déplacement pour lui dire que j'aime beaucoup son travail. Le problème avec le blocage que nous voyons sont fondamentaux.
Il faut résoudre la conduite humaine et son problème, qui est le crime et le délit. Les abus des enfants, la pornographie infantile et toutes les ramifications qui existent dans ce domaine. Dans la session d'IGF du Kenya du mois dernier, il y avait un bon exemple sur lequel on doit se focaliser. C'était une personne, un officier de la loi australien qui décrivait le suivi d'un crime qu'ils avaient fait, l'enquête qu'ils avaient fait pour un crime, quelqu'un qui vendait des relations sexuelles en direct à des mineurs, avec des mineurs. Donc cet homme a été le père de deux petites filles et nous ne pouvons pas améliorer ce type de problème en bloquant, en filtrant ce type de sites, en refusant, en bloquant. Nous devons continuer à nous focaliser sur les êtres humains de la société, à construire des institutions, un système humain pour lutter contre le crime. Nous devons créer des outils qui servent à compenser les effets de ces informations qui existent, mais nous devons nous focaliser sur la conduite et sur la façon de mettre en place les institutions. Nous avons besoin de davantage de couches. Une fois que nous avons ce système de couches, ça nous permet une fois que nous avons ces outils, ça nous permet de travailler au niveau institutionnel et puis on peut redescendre un petit peu plus bas. Un forum comme ICANN, comme la gouvernance Internet, comme d'autres types de forums avec des parties prenantes et multiparties prenantes qui participent. Nous devons avoir mieux comprendre ce que l'on veut. Si je vous ai pris quelque chose, comment je vais être puni, et voir quelles sont les lois que nous partageons entre les différents pays. Merci. Un conseiller pour le groupement d'utilisateurs non commerciaux qui a découvert les effets d'un site commercial qui représentait des menaces légales et qui a aidé les utilisateurs à comprendre que le contenu en ligne n'était pas disponible, ne pouvait pas être disponible parce que des plaintes avaient été faites, avaient été portées contre cela. Lorsque nous pensons à des outils pour annuler, pour fermer rapidement des sites qui sont dangereux, c'est intéressant parce que vous représentez un outil qui paraît utile pour, en tout cas dans la conversation. Est-ce que vous pensez à la transparence et à la façon dont les utilisateurs d'Internet, les chercheurs comme Titi peuvent trouver des raisons pour lesquelles des noms ne fonctionnent plus, qu'est-ce qui est arrivé avec leur contenu et ce que les utilisateurs peuvent faire pour récupérer cela s'il y avait un contenu légitime qui était associé à ce site mais qu'il était utilisé pour les emails et n'était pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la transparence, pour aider le public et s'assurer que tout cela est utilisé de manière légitime. Un commentaire du panel? Je vais répondre à la dernière question, si vous le voulez bien. Je pense que c'est exactement ce que nous essayons de faire au niveau du système, donner la capacité aux gens de savoir ce qui se passe. Nous avons un système actuellement qui n'est pas transparent. Tout est fait un petit peu entre des gens qui se connaissent ou qui essaye de faire des choses basées sur un rapport. L'idée qui est derrière ce système, c'est qu'il y aura ce système de APWG et qu'il y aura des contenus, des statistiques qui seront publiées sur ces contenus. Nous travaillons avec des académies, nous essayons de faire des études sur différents problèmes et nous voulons aussi créer un système de redressement qui nous permettent d'avoir un petit peu le commentaire des personnes qui ont fait des actions. Donc, nous voulons reconstruire ce système. Nous avons entendu beaucoup de choses de la part de gens comme vous, des préoccupations, nous les partageons. Nous ne voulons pas retirer des contenus légitimes, des contenus, seulement des contenus controversiaux. Nous sommes d'accord. Et que nous devons lutter contre le phishing et les opérations de malware, c'est tout, sur Internet. Bien, je vous propose de prendre les commentaires et les questions que vous avez. Et on y répondra. Nous allons y répondre. Allez-y, Mohamed. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, lorsqu'on regarde les chiffres, le nombre d'acteurs qui travaillent dans le domaine des différents et de l'application de la loi pour le DNS, je voudrais séparer deux cas, le cas du CCTLD et le cas des GTLD et nom de domaine. C'est très important pour moi. Et d'un autre côté, je voudrais vous présenter, vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs en termes d'intervention et d'action. La réglementation, la loi en tant qu'acteur global, la police, les tribunaux, etc. Ici, on a un cas. Si l'on regarde des exemples dans le secteur du téléphone portable, parce que beaucoup de problèmes se passent là, les réglementations ont créé une série d'infrastructures pour résoudre ces problèmes. Et je suis heureux de vous annoncer qu'une des meilleures résolutions que le monde a vues pour le marché du téléphone portable est au Nigeria. On a créé une cour pour l'industrie du portable où tout cela est traité par les acteurs du secteur et vont voir les plaintes. Il y a un responsable pour chaque région. Les gens ont la possibilité de se plaindre et cela est résolu. Et les gens vont revenir 2 mois après voir ce qui s'est fait et s'il y a des résultats. Mais revenons au système de nos domaines. Ce qui se passe, c'est que je suis un registrant. Lorsque les gens ont un problème, la première chose, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils doivent parler. La réglementation dans notre environnement, je suis navrée de devoir le dire, ne permet pas et d'avoir ne s'inquiète pas pour la question d'Internet. Les gens ne connaissent pas cela. Il y a un problème de formation de compétences. Les gens doivent être formés pour pouvoir demander aux organisations responsables de s'occuper du problème. Si j'ai un problème de cybercrime, je peux vous dire, vous pouvez aller voir, mois après mois, aller voir la police. La première chose, c'est que on va essayer de comprendre d'abord de quoi on parle et ça va prendre des mois. Je suis sérieux ici. Si c'est un problème de CCTLD, vous aurez peut-être un peu de la chance. Vous serez renvoyé au CCTLD qui n'a rien pour résoudre le problème, mais qui peut vous écouter. Mais qui peut vous écouter et reconnaître qu'il s'agit d'un cas d'abus. Parce que la Cour en elle-même, la loi des pays, n'est pas faite pour s'occuper de ce type de cybercrime. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'interface que le registrant, que l'utilisateur peut utiliser et peut aller voir. Donc ma suggestion pour ICANN et pour l'organisation et pour les acteurs, c'est que nous devons avoir un système, une manière de soutenir les meilleures pratiques. Les pays ont besoin de guides sur la façon de gérer ce type de problème. Certains le remettent entre les mains la loi, d'autres essayent d'organiser le marché, les différentes institutions qui interviennent pour avoir des guides. Mais je vous dirais que si vous ne résolvez pas, si vous n'arrivez pas à résoudre cela, le registrant Africa ou le serveur des registrants n'aura pas confiance dans le système et ne rentrera pas dans ce système. Et à la fin de la journée, ne soyez pas surpris s'il y a un niveau d'introduction très bas dans le pays, parce que les gens disent « qu'est-ce qui va se passer si j'ai un problème avec mon vendeur, avec mon intégrateur, avec mon hôte web, si on ne trouve pas de réponse à ces questions ?» Donc il dit « je préfère être en face à face, physique, plutôt que de passer au niveau, travailler au niveau virtuel. » Merci. Je pense qu'une partie de ma question ici a été déjà posé. Je vais me reprendre un petit peu ce que Miss Titi a dit. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Maintenant, vous devez vous fermez un site Internet. L'adresse est toujours là. Ils changent de nom et ils reviennent avec le même contenu, avec le même concept. Et lorsqu'il s'agit de télécharger des choses, le travail, tout se passe de la même façon. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller à l'adresse IP et l'effacer du site? Je veux dire, l'effacer du web. Oui, merci. S'il vous plaît, répondez-moi, comme ça je pourrai répondre. Parce que je ne suis pas très technique. Et je viens d'Afrique. Hein, et toutes les délits viennent d'ici. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la législation, la loi, soit mieux adaptée à ce problème? Voilà ma question. Merci. Je suis Rafida. Je suis de la commission de communication du Mali. J'ai une question à vous poser. Les outils que vous avez, parce qu'actuellement, notre commission a mis en place un blocage et nous sommes plus concentrés sur le problème du phishing, je dirais quand même, parce que nous n'avons pas de personnes qui trichent sur le site web. Donc, nous avons des fournisseurs de services comme Google ou Yahoo. Quand on les contacte, ils arrêtent le service. On le leur dit, ils le font en quelques minutes. Donc, le problème que nous avons est que certains sites Internet ne sont pas accueillis par ces compagnies. Des fois, nous n'avons pas de réponse. Donc, nous avons utilisé notre système, nous bloquons le DNS. Donc, si on utilise ce nouvel outil, ce que vous proposez, je vais l'essayer, ça m'intéresse. Mais ce que je voulais savoir, c'est quelle est la rapidité du temps de réponse? Parce qu'actuellement, nous avons 2 heures pour que le fournisseur de service bloque un site de phishing. Mais si les outils que vous proposez sont plus rapides, ça m'intéresse. Merci. Dernier commentaire. Oui, je suis Zaboulvet du Maroc. Nous avons un web host et je vais... La question est directe. Je voudrais savoir, en tant que compagnie marocaine, quelles sont les lois que nous devrions appliquer et auxquelles nous devrions obéir. Ce sont les lois marocaines, les lois américaines, les lois canadiennes, dans la mesure où notre serveur est situé au Canada. Et nous pouvons avoir aussi des serveurs en France. Donc, est-ce que cela dépend de l'endroit où se trouve le serveur, de l'endroit où nous nous trouvons? Est-ce qu'un jour, un policier du Maroc peut venir et nous dire, ça, c'est arrivé, hein, et frapper à notre porte et nous demander des informations ou de retirer quelque chose de notre site Internet ou des choses comme ça? Et je voudrais dire que je suis d'accord avec Mohamed sur ce qu'il a dit concernant la possibilité d'être en Afrique et ces choses que nos usagers finaux connaissent, hein, et le fait de pouvoir savoir qui contacter en cas de problème. Si vous achetez un site Internet à un gars qui disparaît ensuite d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, et vous vous retrouvez avec rien, sans nom de domaine, sans site Internet. Hein. Donc, qui est-ce que je vais pouvoir contacter pour m'aider dans un cas comme ça, pour résoudre ce problème, hein? Voilà. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions de grand intérêt. Donc, nous allons commencer par la droite. Nous allons demander au panel de faire des commentaires et de s'assurer de répondre aux questions. Titi, allez-y. Je voudrais vraiment être rapide. Je suis allée sur la diffusion de notre session et je me suis rendu compte qu'un commentaire a été fait. Est-ce que nous avons indiqué que, d'une certaine façon, il y a des clichés qui ont été prononcés ici? Et j'allais répondre, et c'est ce que va être ma remarque finale. Nous ne pouvons pas nous éloigner des clichés et nous répétons les problèmes dans la mesure où ces problèmes n'ont pas été résolus. Un exemple et une des questions qui est apparue ici, pourquoi est-ce qu'on n'efface pas l'adresse IP? Pourquoi? Dans la mesure où les problèmes ne sont pas bien compris et où nous assumons que tout le monde le comprend, nous n'allons pas avancer. Mon deuxième commentaire est qu'en termes de DNS fermé, nous avons avancé, oui, mais la proposition que nous avons devant nous, qu'est-ce que nous allons faire? Quand est-ce que nous allons aller au-delà des blablabla et de ce type de panel et mettre en place des actions? J'ai présenté une série d'idées. Ce que nous devons faire doit être fait, sinon nous allons continuer à nous demander qui c'est qui a raison, l'utilisateur final, le fournisseur, etc. Merci. Je voudrais répondre aux commentaires qui ont été faits dans cette salle. D'abord, dans quel domaine il faut être attentif? Si vous avez des serveurs au Canada, vous devez faire attention aux lois canadiennes. Et si vous êtes situé au Maroc, vous devez vous occuper des lois marocaines. Les zones grises sont, par exemple, tout ce qui concerne les réglementations. Hein. Et là, on a une série de problèmes qui apparaissent. En ce qui concerne l'annulation d'une adresse IP, hein, c'est un problème grave, mais... à partir du moment où nous pouvons annuler cette direction IP, je pense que il s'agissait ici d'une approche basée sur l'IP. Ce n'est pas une boule de cristal. Hein. On peut, ce site peut être hébergé dans différents endroits et donc c'est très compliqué de le trouver. Pour une référence, je dirais qu'on peut aller voir l'autre groupe de travail, le groupe de travail qui travaille sur le Fast Flux. Soyez très bref, s'il vous plaît. Je vais être très bref pour traiter, donc répondre à la question. Le programme APWG est un programme important de suspension. Si on peut faire ça en 2 heures, gardez-le. C'est très bien, c'est le mieux qu'on puisse faire. Avec le projet de suspension de registre, ça prendra probablement 1 jour, avec de la chance. Donc c'est un projet de suspension. Hein, c'est beaucoup plus sérieux que de bloquer certaines portions d'Internet et qu'on ne puisse pas voir certains contenus. Je crois que j'ai répondu à la question. Merci. Si vous n'avez pas de commentaires, vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais faire un commentaire concernant la capacité et qui augmente ici pour les registrer. Nous faisons beaucoup de travail dans ces efforts, dans ce domaine en particulier, du respect de la loi, parce que le problème est global et nous avons besoin de travailler dans le plus grand nombre de pays possible. Donc, assurez-vous que ce travail est réalisé. C'est un processus lent et qui doit se faire au niveau de la région. Merci. Je voudrais vous donner 3 raisons principales. Il y a un problème. Il faut le combattre. 2, nous avons fait une collaboration internationale qui a été confirmée dans ce panel. Et la collaboration est la seule façon de résoudre ce problème et avec différentes juridictions. Dans certaines juridictions, on a seulement une collaboration et nous faisons cela de manière extensive et cela arrive. Mais nous avons aussi adopté le système de multipartie prenante et l'engagement à multipartie prenante. C'est ce que Mohamed disait lorsqu'il parlait de personnes qui vont se réunir pour discuter, lutter contre le cybercrime. Et le cybercrime diminue au Nigeria par conséquent. Merci. Merci. Je pense qu'on a dit, on a parlé de collaboration, mais je voudrais aussi qu'on parle du développement de compétences. Lorsqu'il s'agit d'Afrique, je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce domaine. Et je dirais aussi que les pays ont besoin d'avoir leur propre stratégie dans le domaine de la sécurité. Les gens, des fois, ne savent pas que faire. Et finalement, les meilleures pratiques que nous devons copier en Afrique, je crois que c'est quelque chose de très utile et l'Afrique et le CERT africain est là pour cela. Bien, je crois que vous avez fait du bon travail. Vous êtes resté avec nous. Ça a été une longue réunion, mais je pense que c'est une discussion approfondie. Je suis heureuse que cela ait lieu sur le continent ici et je vous remercie pour votre participation. Merci. Okay.
Okay, you are released. You deserve your beer.